Les rendez-vous santé d'Africa Radio, le dossier.
Maladie chronique la plus répandue, l'hypertension artérielle concerne 1,5 milliard de personnes dans le monde. En France, elle touche plus de 14 millions de personnes, longtemps silencieuses. Elle peut entraîner des complications très graves, infarctus, attaque cérébrale. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Comment la soigner dans le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19 où les hypertendus risquent de développer une forme sévère de la maladie? On en parle avec nos invités ce matin. En plateau avec nous, le professeur Jacques Blacher. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chef du service d'hypertension artérielle à l'Hôtel Dieu, c'est à Paris. Vous êtes également professeur de thérapeutique. Merci d'être avec nous. Nous devions être aussi en direct d'Abidjan avec le docteur Anno Marin, directeur de l'espace médical La Pyramide. Il a eu un empêchement, donc on remercie Stéphane Besançon d'avoir accepté de nous accompagner quelques minutes pour parler de la situation sur le continent africain. Donc bienvenue à tous les deux.
Stéphane Besançon, bonjour. Rappelons que vous êtes président de l'ONG Santé Diabète, une ONG basée au Mali et au Burkina Faso. Est-ce que l'hypertension artérielle est très répandue dans ces deux pays?
Oui, tout à fait. Alors, à l'échelle du continent, on estime aujourd'hui que la prévalence en population adulte est aux alentours de 18% de la population adulte qui est touchée par l'hypertension. Et sur le Mali et le Burkina, on est à peu près à la même chose, à peu près 15%. Alors, je dis bien population adulte parce qu'on a des pyramides des âges très jeunes en Afrique, mais ça reste quand même une personne sur cinq, grosso modo. Donc, ça reste très, très important. C'est aujourd'hui une des maladies les plus prévalentes avec des conséquences très importantes.
Mmh. Alors, est-ce que les causes de l'hypertension dans ces pays sont les mêmes qu'en France, Stéphane Besançon?
Oui, alors les causes, oui. Enfin, il y a des causes, il y a différentes causes. Mais si on prend tout ce qui va être urbanisation, alimentation, etc., oui, on est tout à fait sur des causes qui sont un peu les mêmes, hein, avec des changements alimentaires, des changements de mode de vie, de la sédentarité, et puis surtout pour l'hypertension, une alimentation qui est de plus en plus salée, notamment en Afrique, avec l'introduction de produits transformés comme les bouillons cubes, les cubes alimentaires, qui sont quasiment que du sel, qui sont consommés en énorme quantité avec un marketing très fort de l'industrie agroalimentaire qui paraît vraiment très problématique.
Mmh. Est-ce que vous constatez des disparités entre les grandes villes et les campagnes, notamment dans les deux pays où vous travaillez, le Mali et le Burkina Faso?
Alors, très clairement, le triptyque, on va dire obésité, hypertension et diabète, hein, qui sont des choses qui vont souvent ensemble, pas tout le temps, mais souvent, on voit aujourd'hui que c'est très urbain. Mais en fait, ce qui a changé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est que l'urbanisation est galopante. Donc avant, c'était vraiment les capitales, et maintenant, après, ça a été les grandes villes secondaires. Maintenant, c'est un peu les plus petites villes tertiaires. Donc, j'allais dire que ça croît avec la croissance de l'obésité. Donc, ça avance de plus en plus dans le pays, de plus en plus loin dans le pays. Nous, il y a quelques années, on a fait une enquête dans le nord du Mali, en milieu nomade, pourtant, c'est étonnant. Et là, la prévalence de l'hypertension était à plus de 13% chez les adultes aussi. Donc, ça reste très important. Donc, c'est une vraie problématique des pays au sens large. C'est pas juste des épiphénomènes urbains.
Alors, est-ce que les personnes touchées par l'hypertension mettent du temps à venir à l'hôpital ou chez le médecin, Stéphane Besançon?
Alors, alors dans le cadre des maladies chroniques, il y a deux problématiques. Hein. Qu'on soit sur le diabète ou l'hypertension, c'est la même chose. C'est le dépistage, c'est-à-dire le nombre de gens. On estime qu'à peu près 70-80% des gens ne sont pas dépistés. Donc déjà, il y a ce problème. Pour aller à l'hôpital, il faut le savoir. La deuxième chose, c'est le recours en priorité à la médecine traditionnelle, très souvent avant d'aller vers la médecine moderne. Oui. Et la troisième chose après, c'est les capacités de suivre un traitement qui est chronique et de payer, j'allais dire, ce traitement tout le temps parce qu'on passe sur le cadre de la maladie chronique et que c'est pas juste une fois ou deux fois dans l'année, il faut se traiter en permanence et là, on peut avoir les problèmes d'accès financier aux soins.
On sait que les hypertendus risquent de développer une forme sévère de la maladie Covid-19. Est-ce qu'il y a une sensibilisation importante des autorités sanitaires sur le continent et en particulier dans les deux pays où vous travaillez à ce sujet?
Alors, sur le continent, oui, grâce à l'OMS, et puis nous, particulièrement dans les pays où on est avec les ministères de la Santé, on a extrêmement appuyé la sensibilisation sur les personnes qu'on appelle fragiles et présentant des facteurs de risque, obésité, hypertension, diabète et d'autres, pour que vraiment la prévention soit beaucoup plus forte sur ces populations-là.
Alors, est-ce qu'il y a justement plus largement une sensibilisation importante des autorités sanitaires au Mali, au Burkina, concernant l'hypertension, Stéphane Besançon?
Oui, alors il y a des campagnes, il y a des choses qui sont mises en place. Après, de nouveau, pour que ce soit efficace, il faut que les gens sachent s'ils sont hypertendus ou pas, ou diabétiques ou pas. Donc l'enjeu aussi, c'est le dépistage, c'est que on sensibilise une majeure partie du temps pour qu'ils sachent qu'ils sont hypertendus. Un, pour la prise en charge de l'hypertension, et deux, c'est aussi très important après pour qu'ils soient bien catégorisés pour des personnes à risque.
Professeur Jacques Blacher, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Radio. Alors, quels sont les signes d'une tension artérielle élevée ?
Eh bien, je dirais que la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes chez les patients hypertendus. Et donc, la majorité des hypertendus n'ont aucune sensation d'être malade. Et c'est bien ce qui pose le problème du dépistage, puisque si on ne mesure pas la tension artérielle, eh bien, on ne fait pas le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, je dirais que soit le dépistage est bien organisé et on peut faire le diagnostic et on peut ne pas prendre trop de retard au traitement de l'hypertension artérielle, soit le dépistage est mal organisé, ce qui est le cas de malheureusement nombreux pays d'Afrique. Et souvent, il y a du retard au diagnostic et on voit arriver des complications alors qu'on ne savait pas que le patient était hypertendu.
Alors, quels sont les premiers signes apparents d'une hypertension ? Comment sait-on qu'on est hypertendu ? Eh bien, c'est de la fatigue, des maux de tête ?
De temps en temps, on a quelques petits symptômes, comme par exemple des maux de tête, mais qui sont finalement assez banals, comme par exemple d'avoir des mouches volantes devant son champ visuel ou d'avoir des acouphènes, c'est-à-dire des petits bruits dans les oreilles, des petits grincements. Et puis après, il y a les complications de l'hypertension artérielle qui peuvent donner des symptômes là beaucoup plus sévères, comme de la difficulté à respirer, des violentes douleurs au niveau thoracique parce qu'on fait une complication de type infarctus ou alors une hémiplégie, on fait une complication de type accident vasculaire cérébral.
Alors, quel est le profil des personnes en France touchées par cette maladie ?
Eh bien, je reviens sur ce que disait Stéphane Besançon, parce que finalement, les facteurs de risque de l'hypertension artérielle sont les mêmes en France et en Afrique. Et donc, il y a des facteurs qui sont alimentaires, il y a des facteurs qui sont en rapport avec l'activité physique, la sédentarité, et puis des facteurs qui sont en rapport avec l'obésité et la surcharge pondérale. Plus on est gros, plus on a de risque d'être hypertendu. Plus on est sédentaire, plus on est à risque d'être hypertendu. Et plus l'alimentation est une alimentation de type occidentale, non méditerranéenne, et plus on a de risque d'être hypertendu. Je voudrais peut-être juste rajouter, par rapport à ce que disait Stéphane Besançon, il y a la sédentarité et il y a l'activité physique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que on peut très bien faire deux séances de sport par semaine, mais quand même être sédentaire. Et il faut se dire que l'activité physique, elle doit être réalisée tous les jours, en permanence. Et c'est vrai que nos activités professionnelles font que, aujourd'hui, on est tous les trois dans un studio, on est assis et on va rester assis une bonne partie de la journée. Alors que on sait bien que si on passe plusieurs heures dans la journée à se lever, à marcher, à aller non pas en voiture mais en bicyclette chercher son pain, eh bien, on va justement moins développer ces facteurs de risque métaboliques que sont l'hypertension et le diabète.
Stéphane Besançon, plus Stéphane Besançon. Alors, professeur Blacher, est-ce que donc pour les hypertendus, l'activité physique est très 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 importante ?
Oui, je pense que on est à la fois dans la prévention de l'hypertension artérielle, mais aussi dans le traitement de l'hypertension artérielle. Imaginons que vous soyez hypertendu et que vous soyez complètement sédentaire, vous ne faites pas du tout d'activité physique. Eh bien, si dès demain, vous faites au moins 3 séances d'activité physique par semaine, alors c'est à chaque fois des séances où il faut faire au moins 30-40 minutes, eh bien, vous allez gagner sur vos chiffres de pression artérielle. Et peut-être on pourra vous traiter avec moins de médicaments antihypertenseurs. Donc même après qu'on ait fait le diagnostic d'hypertension artérielle, l'activité physique reste un élément important dans le traitement.
Alors, on parle d'une maladie silencieuse. Est-ce qu'il y a des événements de la vie qui peuvent justement faire surgir comme ça du jour au lendemain à cette hypertension ?
Alors, c'est un peu différent chez les hommes et chez les femmes, puisqu'on sait que chez les femmes, il y a deux périodes à risque de développer une hypertension artérielle. Il y a la grossesse, effectivement, et c'est vrai que les femmes enceintes sont plus susceptibles de développer une hypertension artérielle, qui est une hypertension artérielle très particulière, qui donc s'appelle l'HTA gestationnelle, l'hypertension gestationnelle, qui peut se compliquer d'une quelque chose qui est assez dangereux pendant la grossesse, qui s'appelle la prééclampsie ou l'éclampsie. Et ça touche beaucoup de femmes enceintes, ça touche probablement, tout confondu, probablement entre 5 et 10% de toutes les grossesses. Donc c'est une complication grave qui touche à la fois la mère et le fœtus et qui peut générer toute une série de complications, encore une fois, chez la mère et chez le bébé. Mmh. Et puis il y a la ménopause qui est aussi un moment à risque pour les femmes. Elles sont plus à risque de devenir hypertendues après la ménopause, au moment de la ménopause, et c'est probablement une période de leur vie où il faut faire beaucoup de prévention, parce que c'est aussi une période où elles sont plus à risque de développer des problèmes de diabète ou des problèmes de cholestérol. C'est une période de leur vie où la répartition des graisses se modifie un peu. Bref, je pense que faire un bilan de santé à la ménopause, c'est probablement un bon service à rendre aux femmes aux alentours de la cinquantaine.
Et concernant les hommes ?
Eh bien, chez les hommes, on va dire que c'est finalement tout au long de leur vie qu'on peut faire un diagnostic d'hypertension artérielle. Et on sait que plus on prend de l'âge et plus on est à risque de développer une hypertension artérielle. Donc, on a dit ce que disait le docteur Besançon tout à l'heure, hein, qu'il y avait probablement 15 à 20% de la population adulte. Mais finalement, lorsqu'on a 20 ans, eh bien, on est sur 2 ou 3% de la population qui est hypertendue, peut-être même moins que ça. Mmh. Par contre, après la retraite, lorsqu'on dépasse les 65 ans, eh bien, on a quasiment un risque sur 2 d'être hypertendu. Donc, c'est une maladie du vieillissement, l'hypertension artérielle. C'est le vieillissement du système artériel.
Est-ce que c'est lié aussi à l'hérédité ? C'est-à-dire que des personnes qui ont des parents hyper tendus peuvent développer aussi une hypertension au cours de leur vie ?
Tout à fait. Donc, il y a les facteurs d'environnement dont on a parlé, hein, l'activité physique, l'alimentation, le poids, et puis il y a une partie d'hérédité dans l'hypertension artérielle. Si l'un de tes parents a été hypertendu, surtout s'il a été hypertendu tôt dans sa vie, eh bien toi, tu augmentes ton risque de devenir hypertendu. Et si ce sont tes deux parents qui ont été hypertendus, eh bien là, le risque, il est encore accru. Et donc, il faut dire, hein, aux enfants des hypertendus qu'ils doivent se surveiller peut-être plus que les autres, avec des mesures de pression artérielle un peu plus fréquentes.
Alors, lorsque l'on est hypertendu, en tout cas, c'est mon cas, parce que je suis hypertendu, il y a également des problèmes du fonctionnement du cœur. Est-ce que c'est toujours lié ?
Alors non, la plupart des hypertendus ont un cœur qui fonctionne correctement. Surtout si, avec les traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux, on réussit à normaliser la pression artérielle. Et là, le cœur fonctionne finalement à pression normale, avec les médicaments ou avec le fait de perdre du poids ou de manger moins de sel, etc.
Alors, ça veut dire que lorsque l'on est hypertendu, on stabilise la maladie avec les médicaments.
Exactement.
Mais elle ne disparaît jamais, cette hypertension.
Eh bien non, c'est une maladie chronique. Et donc, vous allez devoir prendre des médicaments au long cours. Mais tant que vous prendrez vos médicaments, vous serez protégé des complications de l'hypertension artérielle.
Et quel genre de médicaments ?
Alors, il y a toute une série de médicaments qui agissent sur l'hypertension artérielle. Il y a 7 grandes familles, hein, le grand jeu des 7 familles dans l'hypertension artérielle, avec des médicaments qui sont soit des bêta-bloquants, soit des diurétiques, soit des, bon, bref, des familles différentes de médicaments antihypertenseurs. Je reviens sur la question que vous posiez par rapport au cœur de l'hypertendu. Il faut juste bien comprendre que l'hypertension artérielle, c'est une pression dans le système artériel qui est trop élevée. Et donc le cœur, qui a la fonction d'éjecter le sang dans le système artériel, va devoir se battre contre une pression qui est trop élevée. Et donc le cœur, comme tous les autres muscles, lorsqu'il doit éjecter le sang dans une aorte où il y a une tension trop élevée, eh bien il va devoir se muscler, à savoir qu'il va épaissir. Ces cellules musculaires vont se multiplier, vont s'hypertrophier, et cet épaississement du cœur, qui est en fait une adaptation à la contrainte, une adaptation à la situation, porte en elle-même des effets pervers, puisque cette hypertrophie du cœur va générer derrière possiblement de la fibrose, possiblement de l'insuffisance cardiaque, des arythmies et toute une série de complications.
Est-ce que le stress et l'hypertension sont liés ? C'est-à-dire quelqu'un de très stressé a plus de chances de développer une hypertension ?
Oui, clairement. Clairement, le stress, qu'il soit personnel ou professionnel, augmente le risque d'hypertension artérielle. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de démonstration bien solide que les thérapeutiques de gestion du stress améliorent les chiffres de pression artérielle. C'est supposé, mais ce n'est pas encore démontré.
Alors, lorsque l'on est hypertendu, on doit se surveiller grâce notamment aux appareils qu'on appelle les tensiomètres. Alors, à partir de quel moment, au niveau des chiffres, doit-on s'inquiéter ?
14 pour le premier chiffre, 9 pour le deuxième chiffre. C'est à la fois le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc, si vous avez plus de 14 pour le premier et ou plus de 9 pour le deuxième, vous êtes hypertendu. Pas une seule fois. Il faut avoir régulièrement des chiffres trop élevés pour être diagnostiqué hypertendu. Mais c'est aussi l'objectif, à savoir que si vous êtes hypertendu, eh bien, il faut que le traitement que vous prenez vous ramène en dessous de 14 pour le premier chiffre et en dessous de 9 pour le deuxième chiffre.
Alors, on parle de traitement, de médicaments, mais il y a aussi l'alimentation. Alors, quels sont les aliments à bannir totalement lorsqu'on a une hypertension artérielle très élevée ?
Aucun. Aucun.
Parce qu'on parle beaucoup du sel, par exemple, il faut bannir.
Alors, oui. Alors, il faut pas bannir les médicaments parce que, clairement, vous avez bien compris.
Les aliments,
là,
hein, pas
oui, les aliments, pardon. Vous avez bien compris que là, on était parti sur un traitement au long cours. On ne peut pas dire à des individus qu'ils ne peuvent plus manger, par exemple, des chips qui sont très salés, ou des cacahuètes, ou du fromage, ou du pain, ou de la charcuterie. Par contre, il faut leur dire de modérer leur consommation. C'est un point important. Alors, où est-ce qu'on trouve le sel ? Et c'est vrai que le sel, vraiment, il faut le réduire chez les patients hypertendus. Et il faut aussi le réduire chez ceux qui sont à risque de devenir hypertendus, comme vous le disiez tout à l'heure, chez ceux qui ont des parents hypertendus. Alors le sel, en France, on le trouve principalement dans le pain, les charcuteries, les fromages et les produits tout préparés.
Donc vous comprenez les plats cuisinés, par exemple.
Oui, exactement, ou le fast-food, ou ce genre de choses. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas dire aux personnes de ne plus manger du tout ces produits-là, mais il faut qu'ils modèrent leur consommation.
Est-ce que les hypertendus en France ont été impactés par l'épidémie de Covid-19 ? Est-ce qu'ils ont moins consulté ? Est-ce qu'elles se sont laissées un petit peu aller ?
Alors, on s'est bien entendu posé la question. En fait, on s'est posé deux questions. Parce qu'il y a eu d'abord une crainte par rapport à certains traitements de l'hypertension artérielle, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, c'est un peu spécialisé, excusez-moi. Mais on a cru que ces médicaments allait favoriser l'infestation à la Covid-19 et les formes graves de Covid-19. Et comme ce sont des médicaments qui sont énormément prescrits dans l'hypertension artérielle, mais aussi dans l'insuffisance cardiaque, comme ce sont plusieurs millions de Français qui prennent ces classes médicamenteuses, vous imaginez l'inquiétude qu'on a eue. Alors fort heureusement, cette inquiétude n'a pas été confirmée. Et donc, ceux qui prennent ces familles de médicaments ne sont pas plus à risque ni de développer la maladie, ni de développer une forme grave de la maladie. Ouf, heureusement.
Mais pourquoi les hypertendus ont plus de risques de développer une forme sévère de Covid-19 ?
Alors, l'hypertension artérielle est effectivement, comme beaucoup de maladies chroniques, un facteur de risque de développement de formes sévères. Alors, par rapport à d'autres maladies, c'est un petit facteur de risque. C'est-à-dire que l'obésité est un gros facteur de risque.
Le diabète aussi.
Le diabète est un gros facteur de risque. L'âge, c'est le plus important. On fait d'autant plus de formes sévères qu'on est âgé. Et l'hypertension, dans la famille des facteurs de risque, est probablement un facteur de risque moins important. Alors après, comment est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que ceux qui ont des maladies chroniques, métaboliques ou cardiovasculaires, ont plus de risques de développer une forme grave ? Très franchement, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont évoquées aujourd'hui, mais on n'a pas encore de certitude sur cette donnée scientifique.
Alors, que doit faire une personne donc, qui sait qu'elle souffre d'hypertension ? Qu'est-ce qu'elle doit faire vers qui doit-elle se tourner ? Vers quel professionnel de santé ?
Alors, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, comme on l'a dit, extrêmement fréquente et qui est prise en charge la plupart du temps en médecine générale. Et les médecins généralistes sont des spécialistes des maladies fréquentes et donc ils le prennent en charge dans l'immense majorité des cas de façon très performante l'hypertension artérielle. Et puis de temps en temps, eh bien, il y a des hypertensions artérielles qui sont particulières. Par exemple, l'hypertension artérielle qui résiste aux médicaments. Par exemple, l'hypertension artérielle qui se complique d'un problème rénal ou d'un problème cardiaque. Par exemple, l'hypertension artérielle qui est associée à une autre maladie. Eh bien, dans ces cas-là, il faut un avis spécialisé. Et en France, il y a des spécialistes d'hypertension artérielle qui parfois sont des cardiologues, parfois sont des néphrologues, parfois sont des endocrinologues, des diabétologues, des internistes, etc. Ça dépend un petit peu des régions. Mais il y a des spécialistes d'hypertension artérielle vers qui on se retourne en cas, encore une fois, de forme compliquée.
Est-ce que les hypertendus doivent se faire tester régulièrement pour prévenir le développement d'une forme sévère de Covid-19? Est-ce que vous conseillez de se faire tester régulièrement? Et que doit faire en priorité une personne souffrant d'hypertension qui a appris sa positivité à la Covid-19?
Alors, se faire dépister régulièrement, la réponse est non. Aujourd'hui, les deux seules indications du dépistage, c'est un, des symptômes de Covid-19, qui sont en général des symptômes de grippe, et deux, le fait d'être un cas contact, d'avoir été en contact avec quelqu'un dont la maladie est prouvée. Donc là, oui, il faut se faire dépister. Mais se faire dépister en dehors de ces deux cas-là n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis vous avez bien compris que le dépistage par la recherche du virus dans le nez, la PCR, eh bien ce dépistage... c'est juste au moment où vous le faites. Et vous pouvez très bien vous faire dépister négatif et puis sur le chemin pour revenir chez vous, vous faire contaminer. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de se faire dépister régulièrement. Et puis surtout, à partir du moment où on est positif, en dehors du fait qu'il faut se protéger pour protéger les autres, vous avez bien compris, notamment votre environnement familial, eh bien tant qu'on n'a pas de symptômes, il n'y a absolument rien à faire. Et si on a des symptômes, à ce moment-là, il faut grader les symptômes avec soit on reste chez soi avec du paracétamol, soit on va à l'hôpital, soit de temps en temps, malheureusement, on termine en réanimation.
Il faut surtout éviter d'augmenter le stress, donc le risque d'hypertension. Quand on apprend sa positivité, qu'il y a un stress aussi qui se développe.
Non. Clairement, si l'hypertension est un facteur de risque, et oui, c'est un facteur de risque, comme on l'a vu, même si c'est un facteur de risque un peu mineur, eh bien, c'est pas des chiffres élevés à un moment donné qui va modifier l'évolution de votre maladie. C'est le fait d'avoir une hypertension artérielle et donc d'avoir un système cardiovasculaire qui est atteint de cette maladie. Et c'est probablement cela qui va modifier un peu l'évolution de la maladie. C'est pas le stress, l'angoisse qui va vous faire passer d'une forme bénigne à une forme sévère.
Alors, lorsque l'on est hypertendu, à quelle fréquence doit-on surveiller son hypertension? C'est quoi les recommandations?
Eh bien, au début de la maladie, tant qu'on n'est pas équilibré par le traitement de son hypertension artérielle, il faut, à chaque modification du traitement, évaluer l'efficacité de ce traitement au bout d'un mois. Et puis, à partir du moment où on a atteint une vitesse de croisière, savoir que, ça y est, avec les médicaments que vous prenez, eh bien, vous avez des chiffres de pression artérielle qui sont normalisés. Bien à ce moment-là, c'est, je dirais, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, et c'est suffisant, sauf s'il y a des phénomènes intercurrents. Mais sinon, prendre sa pression artérielle 2, 3, 4 fois par an, c'est suffisant quand on est, encore une fois, bien équilibré par le traitement.
Est-ce que vous remarquez des problèmes d'observance du traitement, c'est-à-dire même sans symptômes, les gens traités arrêtent même le traitement alors qu'ils ne le devraient pas?
Alors oui, et je regarde votre collègue qui sourit et je me dis que de temps en temps, elle doit aussi peut-être oublier ses médicaments antihypertenseurs. Et c'est bien normal, on est humain, on a très envie d'oublier qu'on a une maladie chronique. Et c'est vrai que les hypertendus, malheureusement, et c'est ce qu'on a observé en France, lorsqu'on regarde, et en particulier c'est un travail qui a été fait à Santé publique France, lorsqu'on regarde la consommation des médicaments des hypertendus. Donc ils vont chez le pharmacien et on a l'information de savoir si on a délivré leurs médicaments ou pas. Eh bien malheureusement, on se rend compte que tous les hypertendus ne prennent pas tous les jours leurs médicaments antihypertenseurs.
Alors on parle beaucoup d'hypertension, il y a aussi l'hypotension. Est-ce que c'est aussi grave que l'hypertension et pourquoi on en parle moins, on en fait moins la publicité?
Alors l'hypotension, c'est soit pas une maladie du tout. Par exemple, assez souvent, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est mince, on a des chiffres bas de pression artérielle et on a 10 ou 11 de maxima. Alors c'est la définition de l'hypotension, mais en fait on va très bien. Et je dirais même que plus la pression artérielle est basse, jusqu'à des niveaux vraiment 10 pour le premier chiffre, et plus on vivra vieux. Donc vous voyez, c'est pas mal d'être hypotendu. Et puis il y a des circonstances où c'est pas bien d'être hypotendu. Par exemple, lorsqu'on est diabétique ou lorsqu'on a une maladie de Parkinson, de temps en temps, au changement de position, on va avoir une hypotension. Et ça peut être dangereux parce qu'on peut faire un vertige, on peut perdre connaissance, on peut chuter, on peut se fracturer. Et puis, de temps en temps, les médicaments, lorsqu'ils sont trop importants, trop puissants, ils peuvent générer de l'hypotension avec les complications de l'hypotension.
Les personnes hypertendues sont aussi à haut risque cardiovasculaire. Alors, comment diminuer ce risque cardiovasculaire?
En traitant l'hypertension artérielle et aussi en n'oubliant pas que les patients hypertendus, de temps en temps, ils ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, mettre énormément d'efforts pour traiter l'hypertension artérielle de quelqu'un qui serait diabétique et en s'occupant pas suffisamment de son diabète, c'est, vous comprenez bien, de la mauvaise médecine. Ou alors traiter un hypertendu sans lui expliquer que finalement il faut impérativement qu'il arrête de fumer parce que l'association hypertension et tabac, elle fait vraiment beaucoup de mal au système cardiovasculaire, ça aussi ça serait de la mauvaise médecine. Donc il faut prendre en considération l'intégralité des facteurs de risque cardiovasculaire avec l'hypertension artérielle.
Merci d'être venu répondre à nos questions, nous apporter vos éclairages sur l'hypertension. Professeur Jacques Blacher, je rappelle que vous êtes chef du service d'hypertension artérielle à l'Hôtel Dieu à Paris, également professeur de thérapeutique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci Nadir qui a préparé cette émission et merci pour le Journal de la Santé. On se retrouve tout à l'heure à midi pour l'info.